Melting Pot sur BXFM avec Marc Herman.
Midi et demi, c'est le Melting Pot, deuxième partie. Comme nous sommes mardi, Marc, on parle de quoi ?
De littérature, mon cher.
De littérature.
Oui, et en compagnie de qui ?
De Evelyne.
Voilà, Guinée. On ne peut rien vous cacher.
Voilà, et je ne suis pas toute seule, évidemment. Bonjour, j'ai un invité. Donc, bonjour, Martin Rilland.
Bonjour.
Alors, vous êtes auprès de nous pour parler de votre livre, un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est un livre très particulier, qui s'appelle Le Cavalier, qui est publié chez un éditeur qu'on aime beaucoup ici, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est Maelstrom Révolution. C'est un roman. Et en fin d'émission, donc, je le signale déjà à nos auditeurs, après avoir parlé de votre livre, on va justement parler d'une de ces activités organisées par Maelstrom, qui est le Festival, donc un grand festival créatif qui a lieu ici à Bruxelles et qui réunit des artistes du monde entier. Mais commençons par vous, Martin Rilland. Alors, j'ai lu votre bio, hein, vous êtes né à Bruges. C'est vrai?
C'est vrai, je suis né à Bruges, mais je n'ai fait qu'y naître.
C'est vrai? Vous avez déménagé très vite.
Ma famille paternelle est brugeoise, mais c'était des Flamands francophones qui ont déménagé plus tard. Et puis, ça fait que par hasard, je suis né à Bruges, parce que mes parents étaient déjà établis à Bruxelles. Et ça fait qu'ils allaient à Bruges et que voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait toc-toc et qu'il fallait que je naisse.
Voilà. Mais à part ça, vous êtes bruxellois.
Voilà, vous êtes bruxellois.
Non, je suis vraiment bruxellois.
Et bienvenue sur BX.
Non, mais l'interview ne va pas avoir lieu en flamand, j'ai senti un peu de frayeur. Mais tout ira bien, tout ira bien. Donc vous êtes scénariste de bande dessinée.
J'ai fait la bande dessinée pendant quelques années chez Delcourt, chez Elliott, un éditeur bruxellois qui a disparu. Et puis chez Glénat aussi. Quoi. Donc j'ai plusieurs dessinateurs avec qui j'ai travaillé pendant ces années-là. Quoi.
Et vous êtes auteur d'un premier roman qui s'appelle L'Incendiaire, qui était paru au Carnet d'Ostrov. Et ceci donc, Le Cavalier est votre second roman.
Oui.
J'ai lu que vous étiez un grand marcheur et un grand voyageur, donc vous avez vu du pays. Ça se sent beaucoup dans le roman où la marche et aussi le trot prennent vraiment un sens et une intensité particulière, à la fois dans le rythme de l'écriture et aussi dans l'histoire. Et alors, il y a un petit point de votre bio que j'ai trouvé très mystérieux, où on mentionne votre travail d'élagueur dans un institut psychiatrique.
Non, c'est
expliquez-moi un petit peu.
C'est une confusion. Je travaille comme élagueur et dans une institution
psychiatrique.
Ah oui, c'est un raccourci un peu.
Oui.
Voilà. Alors, c'est ça. Donc, mon intuition, au vu de vos personnages, évidemment, après avoir lu cette bio, était que peut-être que c'était une métaphore, mais enfin, on a le sentiment qu'il y a, par rapport à la santé mentale, une connaissance.
Oui.
Qui est particulière, qui se ressent tout à fait au travers du livre, puisqu'on a affaire à des personnages borderline.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, en même temps, des personnages qui, vous le disiez vous-même dans l'introduction de l'émission, personnages nietzschéens, dans le sens qu'ils sont peu référenciés et qu'ils inventent eux-mêmes leur univers en marchant, si je puis dire, en marchant ou en espérant chevaucher.
Et bien, on a bien entendu les pas.
C'est... Et c'est ce que vous faites, vous aussi, en marchant? Vous inventez l'univers de vos livres?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la marche, pour moi, est très inspirante. Et j'aime beaucoup marcher en montagne, marcher en forêt, peu marcher en ville. C'est vrai que la ville ne m'inspire pas tellement pour marcher. Je préfère faire du vélo à Bruxelles. Mais la marche, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Et j'aime bien tous les écrivains marcheurs, entre autres Rimbaud, qui pour moi est un écrivain qui me fascine surtout comme marcheur. Et l'idée qu'il ait pu traverser la France entière, aller dans les Ardennes, aller à Paris, à Bruxelles, à Charleroi, à pied, tout ça me ravit totalement, en fait. Voilà.
Eh bien, on va traverser un petit peu votre livre après une pause musicale.
Oui, avec plaisir. Et on s'écoute Dibi Boulevard. Et on revient juste après. Restez sur BXFM, le Melting Pot, jusqu'à 13h.
Mom. samedi 9 mai pour fêter l'Europe, les institutions européennes vous ouvrent leurs portes dans une ambiance conviviale. En thème principal, l'année européenne pour le développement. Une occasion unique de connaître les coulisses de l'Europe tout en s'amusant. Conférences, animations, concerts, débats et activités de 10 à 18 heures. Ce 9 mai, fête de l'Europe à Bruxelles. Parce que l'Europe est faite pour vous. BXFM sera en direct de 10h à 17h depuis les studios de la Commission européenne.
Europe Production, Revue Contact, Restaurant Sainte-Anne et Café Lisbonne présentent. Grand spectacle avec le chanteur Emmanuel à Bruxelles le 9 mai à partir de 21h dans la salle L'Arsenal à Etterbeek. Vente des billets à 17€ à Bruxelles et Anvers. Plus d'informations, www.revucontact.be et 0476 90 41 93.
Mon épargne, j'en suis fier. Elle en est à sa troisième usine.
Réinvestir l'épargne dans les grandes entreprises d'ici, chez CBC Banque et Assurance, on y croit.
Club Mania, tous les jeudis 18-19 en direct, la nuit du samedi au dimanche, sous les étoiles. Pour les slow, la séquence slow, après la bamba, ça marche.
Oh, la vieille.
Mais par contre, Pascal et moi, on a très bien mixé dans les stations-service la semaine dernière. C'était très bien. On a fait la Total, on a fait la Shell et on a fait les stations mobiles.
Oh, je donnerais 5 sur 10.
Et moi, je donne 10 aussi, j'aime bien.
Voilà. Bon, bah.
C'est mignon.
Je vous hais.
Et non, mais je donne 10 parce que comme tu vas chercher la bouteille et que j'ai donné 10 aussi, tu me serviras le premier. Hein.
Club Mania, l'émission clubbing sur BXFM. Ce dimanche 10 mai, entre 10h et 17h, venez participer à la grande fête spectacle de l'association Animé à Wezembeekopem. Animé, c'est du sport près de chez vous toute l'année. Il y aura des clowns, des cadeaux, des surprises, un château gonflable, un tournoi de tennis et des hamburgers le midi. Et en priorité, vous pourrez vous inscrire pour la saison 2015-2016 à plus d'une vingtaine d'activités sportives pour petits et grands. Rendez-vous ce dimanche 10 mai au hall des sports de Wezembeekopem, avenue Rana Street numéro 85. Info sur la page Facebook ou sur le site animé.be.
Vous êtes dans le quartier de la Chasse, vous écoutez BXFM sur 104.3. Melting Pot sur BXFM. BXFM.
Guys in a pool. I wanna rock my song, no, but I don't know calls about Manchester. It's rock and roll forever. I wanna be a lover. I wanna be someone like you. I wanna be a rolling stone. I wanna be you. Or another. I wanna be another.
Les Bukowskis sur BXFM, Creed in a Cage sur le 104.3 FM 1h-20 et on revient avec Evelyne qui nous parle de littérature aujourd'hui en compagnie de son invité.
Oui, Martin Rylane pour son livre Le Cavalier publié chez Malmström Révolution. Alors Martin Rylane, Le Cavalier, racontez-nous un petit peu, de quoi s'agit-il?
De quoi s'agit-il? Alors là, vous m'embarrassez beaucoup. Il s'agit d'un personnage un petit peu jeté, un petit peu à la marche, qui vit une vie, il travaille dans un bureau de poste, mais il attend un destin. Il attend un destin depuis longtemps. Et il se fait qu'à un moment donné, il fait une rencontre qui lui fait penser que ce destin se réalise. Mais il rencontre des personnes pas toujours très recommandables, mais il croit que c'est en fait que tous ces gens finalement contribuent à lui permettre de réaliser son destin. Mais il est entraîné dans un tourbillon qu'il ne maîtrise plus et sur lequel il n'a même pas de mots jusqu'à ce qui se passe à la fin. Quoi. Je ne pourrais pas en dire plus, mais, mais c'est un peu le...
Mais disons que ce n'est pas optimiste. On a parlé de Nietzsche dans la première partie, donc on comprendra bien que...
Bon, pour moi, Nietzsche n'est pas négatif. Hein.
Non, pas, il n'est pas négatif, c'est
oui,
certain.
Je ne vois pas Nietzsche comme un philosophe négatif. Au contraire, je crois que ce que disait une amie philosophe qui a écrit un article sur mon livre, elle dit que c'est nietzschéen dans le sens que ce ne sont pas des personnages qui pensent, c'est des personnages qui agissent et qui parlent. Et donc, on arrive à les connaître en fonction de ce qui se passe au fur et à mesure, mais il n'y a pas de référence, en fait. C'est un bouquin très peu référencé. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu.
Et je trouve que dans l'écriture, en fait, vous aviez tout structuré à l'avance ou vous êtes laissé guider par l'imagination au fur et à mesure?
Non, j'avais une idée de départ. En fait, l'idée m'est venue parce que je suis un fan de marche en montagne et je vais dans un coin dans les Pyrénées-Orientales que je connais depuis des années, qui est la Montagne Bleue d'ailleurs.
Et dont on parle dans le livre, oui. Hein, qui est l'endroit de référence du livre.
C'était un endroit que je connaissais, une région que je connais par cœur. Et un jour, je suis arrivé là avec ma femme et mes enfants, et on nous a appris qu'il y avait eu un suicide dans la montagne. Et ça m'a tellement choqué que ça m'a donné à penser que finalement, cette montagne, je ne la connaissais pas du tout. Et je me suis dit, en fait, je ne sais rien, je ne connais rien. Et que donc, je me suis renseigné sur cette personne. Mais ça a été un moteur de départ, mais c'était pas, finalement, ça n'a pas tellement servi dans l'histoire elle-même.
Donc mais, c'était une inspiration, disons.
Ça a été un choc qui m'a donné envie d'écrire ce bouquin-là. Mais j'ai écrit une première version qui m'a totalement déplu, et puis j'ai commencé l'autre. Et à ce moment-là, c'est parti comme un mouvement de cavalerie.
C'est ça, oui. Mouvement de cavalerie qu'on sent vraiment dans l'écriture du livre. On va revenir sur ce personnage qui est Antoine Friedland. Et au début du livre, il parle à son corps comme s'il était désincarné, donc comme si c'était un autre personnage en lui. Et on dirait qu'il vit sa vie en spectateur, dans un monde imaginaire plutôt que dans la réalité. Comment avez-vous fait pour vous mettre dans la peau d'un tel personnage?
Mais d'abord parce que je peux l'être un petit peu moi-même, je peux me poser des questions à moi-même, dans ma propre vie, et donc je pense qu'on peut parfois avoir des moments un peu psychotiques dans sa propre vie, avoir une distance par rapport à sa propre pensée, savoir qui on est, quelles sont nos interférences dans notre vie. Et puis des personnages comme ça, j'en ai rencontré aussi beaucoup, plus jetés que moi, je dirais. Mais des personnages qui ont des côtés inquiétants, mais aussi très attachants. Quoi, je veux dire,
Oui, on s'attache aux personnages, tout à fait. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est que finalement, c'est sans jugement, parce qu'on se rend bien compte que les personnages, effectivement, sont jetés, comme vous le dites, qu'ils ne fonctionnent pas comme nous tous au quotidien, sauf dans des période plus borderline. Et finalement, il n'y a pas de jugement. Vous entrez tout à fait dans leur psychologie, aussi dans la psychologie d'une jeune Biélorusse qu'Antoine Friedland rencontre, qui elle aussi est borderline à sa façon, sans qu'on ait de jugement et en voyant aussi le beau côté de leur caractère, ce qui est un côté effrayant aussi, parce que la sympathie qu'on va éprouver dans les actes et dans la façon dont il va agir par la suite et les conséquences sur la vie des autres va nous effrayer d'une certaine façon.
Mais pour moi, ils sont le reflet d'un monde effrayant. Moi, je trouve qu'on vit dans un monde effrayant. Et donc, c'est plutôt dans cette perspective-là que j'ai créé ces personnages-là, parce que je trouve que ce sont les reflets de notre époque où on vit dans un monde totalement capitaliste, qui tourne en boucle et où des personnages perforent leur identité et sont obligés de quitter le lieu de leur naissance pour aller très loin. Et parfois, ils sont confrontés à des mafias, à toutes sortes de choses. Donc pour moi, c'est un peu le reflet de notre époque. Je n'ai pas été chercher très loin. Il suffit d'aller voir dans la rue le tas de gens qu'on voit actuellement dans Bruxelles pour le voir. Des gens comme ça, vous pouvez aller à la bourse, vous pouvez aller boulevard Ometeco dans le bas de la ville.
Des personnes qui se clochardisent, qui se marginalisent, qui doivent gagner leur vie de façon
Des gens qui avaient des vies entre guillemets normales, mais qui, peu à peu,
il y
a un glissement. Et je pense qu'il y a énormément de gens comme ça maintenant. Moi, ça me touche beaucoup. Je ne suis pas né dans ce monde-là, mais je le rends compte que ce monde-là est en train de prendre la place de l'ancien monde.
Eh bien, on va opérer un glissement vers une pause musicale.
On va s'écouter. La suite. Louise Attaque, tout de suite.
On va faire plaisir, hein. Vous avez bien,
quoi.
Oui,
on en parle beaucoup dans le livre.
Allez, Louise Attaque, tout de suite. Je t'emmène au vent.
Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu ramène devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Jusqu'au bout, Louise Attaque, je t'emmène au vent. Et on revient avec Evelyne et son invité aujourd'hui. C'est pas un hasard de passer Louise Attaque aujourd'hui.
Ah non, non, pas du tout. Et justement, on va demander à Martin Rieland. Ben, Louise Attaque est très présent, et particulièrement ce morceau, dans le roman. Oui. Et alors, voilà, on a envie de savoir comment s'est fait la relation, comment il a eu envie de mettre Louise Attaque là-dedans, parce que c'est vraiment un moteur au récit, quelque part. Il le ponctue.
Mais pour moi, ce disque, c'est un mouvement de cavalerie et donc ça fait référence au titre et puis ça rappelle des souvenirs d'une époque où j'adorais rouler très vite dans les tunnels de l'avenue Louise en passant Louise Attaque.
Donc c'est une petite pointe d'humour. Oui. Finalement
vous devez bien aimer aussi, puisque vous aimez la musique, alors La Cavalerie, premier morceau de Julien Clerc.
Ah oui, mais, oui, ça, oui. Six stops de cavalerie, aussi, j'aime bien aussi.
Ah oui, ah, oui, oui, oui
j'aime
oui,
beaucoup
aussi.
Ce mouvement-là.
En plus, la jeune Biélorusse dont tombe amoureux Antoine, il faut le dire, va se surnommer Louise, comme l'avenue Louise. Elle voit le nom en passant, elle se dit, voilà, ça va mieux passer si on m'appelle Louise ici. Et donc, cette rencontre aussi, j'avais envie d'en parler, parce qu'on a comme un espoir au au début du livre, on a l'impression que l'amour qui se crée, qui est un amour physique très intense entre les personnages, finalement va changer la donne, va leur permettre de réorienter leur vie, de passer à plus d'échanges et même de les mettre en connexion avec eux-mêmes, ce qui à un moment marche. Et puis, non, finalement, ils vont quand même être comme atomisés, isolés l'un de l'autre. Je me suis demandé si vous croyez au pouvoir de l'amour.
Oui, bien sûr, je crois au pouvoir de l'amour. Mais je pense aussi que, dans ce cas-ci, ce sont des personnages qui sont, à dessein, peut-être tellement désincarnés et tellement peu construits, si je dirais, qu'il suffit de pas grand-chose pour que finalement ils se désintègrent et qu'ils redeviennent des atomes et que ces atomes peuvent être attirés par autre chose. Et donc à ce moment-là, ils se reconstruisent ailleurs, dans la mort ou dans le cas d'Antoine Friedland, dans ce qui va se passer. Mais oui, je crois beaucoup à l'amour.
Et il y a aussi deux choses. Il y a l'ennui chez Antoine Friedland qui est extrêmement présent, donc il mène une vie pelante, il ne se sent pas bien dans son corps. En tous les cas, il ne se sent pas dans son corps, tout simplement. Et il y a le malheur pour Louise, où vraiment elle va être exploitée, on peut le dire, par une sorte de traite d'êtres humains ici en Belgique. Et finalement, tout ça, c'est un poids si lourd sur leur vie que ça va complètement les isoler des autres.
Oui, c'est vrai qu'ils essayent de se construire quelque chose, mais ils sont chacun, à un moment donné, attirés, séparés par ce qu'ils sont. Et finalement, leur amour n'est pas suffisamment lesté pour leur permettre de résister à ça, quoi. Et c'est ça qui va les amener finalement à aller vers leur destin, quoi. Et voilà, je crois que c'est... Oui, vous avez raison, ce sont des personnages qui ne sont pas suffisamment construits. Et donc, ils essaient de se construire dans l'histoire. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi-même, je ne suis pas toujours... En écrivant le bouquin, je ne savais pas toujours où j'allais. Et j'avais l'impression d'inventer au fur et à mesure les mots ou les chemins.
Vous étiez porté par l'histoire, oui.
Oui, j'avais envie que ce soit les personnages qui me disent ce qu'ils devaient faire. Je pense que c'est ça, finalement, le secret de la littérature, c'est de laisser faire les personnages.
Absolument. Je voudrais juste finir par une petite phrase que vous écrivez qui prête à réflexion, qui donne un peu la tonalité du livre. Cette petite phrase est « Peut-être les mondes ont-ils besoin de s'ignorer pour parvenir à exister ?»
Oui, c'est vrai, je pense qu'actuellement le monde tourne en boucle parce que les gens se connaissent trop et ne se connaissent pas du tout et les infos tournent en boucle, tout tourne en boucle et je pense que de temps en temps, ignorer l'autre permet de se construire soi-même pour pouvoir mieux rencontrer l'autre après, justement. Quoi.
Être dans ce retrait.
Quitter son pays pour, parce que c'est un pays et revenir dans son pays, ça n'empêche pas d'aller voir les autres, mais je pense que c'est bien de savoir d'où on vient, en fait, c'est très important. Quoi.
Voilà, alors donc, on va finir sur cette jolie phrase et donc les auditeurs l'auront bien compris. J'ai beaucoup aimé ce livre où il y a une écriture distante qui est comme rythmée par les sabots du cavalier. Il y a des courts chapitres qui apportent chacun un point de vue différent et ça, c'est très, très intéressant. On est dans une atmosphère qui est vraiment nimbée de mystère, avec un ton qui est effrayant de quiétude par moment. Donc, c'est un bouquin qui est pour moi tout à fait hors cadre et c'est pour ça que pour moi, c'est un grand livre parce qu'il nous amène à aborder des systèmes de pensée, des façons de fonctionner qui, pour la plupart d'entre nous sont complètement étrangers. Mais voilà.
Evelyne, on rappelle le titre.
Oui, le titre, c'est Martin Rilland. Ça, c'est l'auteur, un peu d'ordre. Le cavalier. c'est publié chez Malmström Révolution et c'est un roman.
Conseiller.
Voilà, alors après la pause musicale, là, on va parler du festival Malmström, voilà. Justement, qu'organise cet éditeur du Cavalier de Martin Rilland.
Très bien.
Et bien fait.
Voilà, un peu de musique, Dépêche Mode. Why should it? Dans quelques minutes, il sera 13h et on va clôturer le Melting Pot aujourd'hui. Et Evelyne va nous parler de quelque chose, d'un événement en particulier.
Oui, absolument. Donc un événement organisé par la maison d'édition qui publie le livre de Martin Rieland, avec qui on a conversé aujourd'hui, Le Cavalier, Maelstrom Révolution. C'est un événement qui est annuel. Ça s'appelle le Festival de Maelstrom. Cette année-ci, c'est le 9e festival, donc il l'a appelé 9, avec le double sens du mot 9, évidemment. Ça a lieu à l'Espace Senghor, donc on connaît bien ce très très bel endroit qui est chaussé de Havre, près du piétonnier Place Jourdan. C'est du 7 au 10 mai et c'est en fait une fête qui est réellement dédiée à la performance poétique, à la littérature, à la musique. Des artistes viennent du monde entier dans un dynamisme formidable. Alors on n'a plus énormément de temps avant la pause de 13h. Il y a un programme que vous pouvez aller voir sur le festival, sur le site du festival qui s'appelle festival.net. Je remettrai ça sur mon site internet et sur ma page Facebook pour ceux que ça intéresse. Et je vais simplement souligner un événement qui pour moi est tout à fait exceptionnel et qui a lieu finalement le samedi 9 mai, qui s'appelle la Grand Roue des Poètes, Belgium Bordelio. Alors ça fait, Belgium Bordelio, ça fait référence à un bouquin, on est quand même ici pour parler de livres, c'est la rubrique, qui a été coédité par L'Arbre à Parole et le Poésie Centrum, donc un éditeur francophone de poésie, un éditeur néerlandophone de poésie, et où 15 auteurs belges, 15 néerlandophones et 15 francophones vont créer ensemble cette œuvre, ce grand et ce gai, ludique mélange à la belge, qui va être reproduit symboliquement, mais aussi concrètement, finalement, lors du festival, puisque il y aura 30 poètes qui vont se réunir dans une vaste roue composée de 9 emplacements, qui sont autant de stations d'un itinéraire poétique qu'on va proposer au public, qui va circuler d'un endroit de la roue à l'autre. Voilà, donc vous avez déjà assisté, Martin, à ce festival Maelstrom comme moi. Quel sentiment vous en tirez ?
Je trouve que c'est totalement inédit. Il y a vraiment des artistes totalement formidables. Je ne connaissais pas. Et puis, c'est vraiment, il y a des poètes comme Daniel De Bruyck qui vont venir, qui a écrit un bouquin chez Actes Sud, qu'il faut absolument aller voir. Il y a Yvan Tirsio qui va passer, un chanteur. Et je crois qu'il y a vraiment des... Je ne les connais pas tous parce qu'il y en a tellement.
Oui, je pense qu'ils sont plus de 80.
Oui, c'est ça. Mais il y a quelques personnes que je connais et que j'ai vraiment envie d'aller voir. Quoi. C'est vraiment quelque chose à recommander. Quoi.
Eh bien, on se retrouvera ouais. tous au festival ouais. Maelstrom du 7 au 10 mai. À l'espace Senghor. Et voilà, ben, d'ici là, ayez une belle vie, amusez-vous tous bien.
Merci.
Et l'émission se termine là-dessus,
voilà,
je
merci
pense.
Evelyne. Et on retrouve tout sur votre site, on le rappelle. Hein,
www.evelyneguzy.be, voilà. 3Y, et, non, 2Y et 3E. Voilà.
Et
voilà.
Bon appétit à tous.
Merci beaucoup.
Merci, bon après-midi, restez avec nous. C'est BXFM, BX après-midi tout de suite. Et je vous accompagne jusqu'à 16h. On se dit à demain. Salut, on rigole ici, c'est marrant.